Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur la foi avec la suite d'une étude intitulée « Augmente-nous la foi ». Ayant vu plusieurs passages bibliques qui soulignent la grande importance de la foi, nous avons commencé dans notre dernière étude à considérer comment entretenir et même augmenter notre foi. Étant donné que, selon Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous avons proposé qu'il faut continuer de nourrir sa foi par l'écoute, la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. La Bible. Nous avons aussi parlé de la valeur de rechercher la compagnie d'autres personnes qui ont foi au Seigneur, même la compagnie de ceux d'autres foi, que nous connaissons aujourd'hui à travers les récits de leur vie. Nous voulons poursuivre avec d'autres conseils pour grandir et nous affermir dans notre foi. Comme nous l'avons déjà vu, la foi est défendable sur le plan intellectuel. Mais notre fermeté dans la foi dépend en partie de notre volonté et de l'état de notre cœur. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. » Il faut s'examiner régulièrement pour savoir si l'on cherche vraiment à faire ce qui est agréable à Dieu, si l'on veut parvenir à la gloire du ciel un jour, si l'on ne se laisse pas détourner par le désir pour les choses du monde. Dans la parabole du semeur et des sols, Jésus a comparé certaines personnes à du sol où se trouvent des épines et des mauvaises herbes. Quand les graines de blé ou de riz tombent dans un tel sol, ces mauvaises plantes étouffent le blé ou le riz et l'empêchent de bien pousser. Jésus dit que c'est une image de ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Luc 8, verset 14. Trop souvent, le chrétien rechute non parce qu'on lui a avancé un argument contre, par exemple, la résurrection de Jésus. Il faiblit dans sa foi au point de rechuter parce qu'il s'est laissé attirer par la faveur des hommes, par le gain facile, ou par le plaisir d'une relation sexuelle défendue par Dieu. Il cesse de croire, non par manque de preuves en faveur de la foi, mais parce qu'il ne veut plus croire, parce que cela ne l'arrange pas. Ou bien il se laisse préoccuper par les soucis, les crédits à payer, la guerre qui menace, les exigences du patron ou des beaux-parents, la maladie et ainsi de suite. Et finalement, il n'a plus de temps pour penser à Dieu. Au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, selon Matthieu 6, verset 33, nous fixons nos yeux, nos pensées et nos désirs sur autre chose. Notre cœur est d'abord partagé, et ensuite il se détourne carrément de Dieu. Comme Jésus nous prévient en Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Un autre conseil pour maintenir une foi forte est lié à ce que nous venons de dire. Il s'agit de fixer nos yeux sur ce qui est éternel. En 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul mentionne le fait que ses collaborateurs étaient dans la détresse, persécutés, abattus et sans cesse livrés à la mort. Malgré tout cela, ils ne perdaient pas courage. Et comment arrivaient-ils à conserver la foi au milieu de telles circonstances? Nous voyons des éléments de réponse à partir du verset 16. Paul dit « Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 4, versets 16 jusqu'à 18, et chapitre 5, versets 5 à 10. Quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, que ce soit la persécution, la santé physique qui se dégrade, les pressions financières ou d'autres choses encore, nous garderons la foi si nous apprenons à regarder ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui est éternel. Anticiper la gloire et la bénédiction du ciel, être conscient que nous devons comparaître devant le tribunal divin, regarder ainsi en avant, voilà ce qui nous aidera à ne pas négliger notre foi ou faiblir spirituellement. Toute l'Épître aux Hébreux est une exhortation à tenir fermement à la foi en Christ, un encouragement très fort aux chrétiens de s'attacher aux vérités qu'ils ont reconnues concernant le salut en Jésus-Christ. Écoutez le passage suivant et notez combien de fois l'auteur demande à ses lecteurs, d'une manière ou d'une autre, de penser à la récompense éternelle qui est en jeu. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 34 à 39. Oui, nous devons nous rendre utiles ici sur la terre. Mais n'oublions jamais le conseil de Jésus. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrures ni dérober. Car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Évidemment, nous ne pouvons pas continuer de penser à la manière du monde, à estimer ce que le monde estime et poursuivre ce que le monde poursuit, et en même temps conserver la perspective éternelle qui nous permet de nous accrocher à notre foi. Voilà pourquoi Paul nous exhorte en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est-à-dire, toute notre façon de penser doit se transformer. Certes, il y a plus que la perspective éternelle qui doit faire partie de notre nouvelle manière de raisonner. Nous devons aussi apprendre à faire plus confiance à la sagesse de Dieu qu'à la nôtre. Nous devons nous soumettre volontairement à l'autorité du Seigneur, celui en qui nous avons cru. Tout comme l'enfant doit reconnaître que ses parents savent mieux que lui ce qui est bon et nécessaire. Nous devons reconnaître que notre Père Céleste sait mieux que nous comment gérer le monde qu'il a créé. Il sait mieux que nous ce qu'il convient de nous donner ou de nous refuser. Il sait mieux que nous ce qui est juste et ce qui est condamnable. La version du Nouveau Testament appelée Parole vivante dit en 2 Corinthiens 10, verset 5, Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Si nos pensées sont soumises envers Dieu, notre façon de mesurer les autres, d'évaluer les églises ou de définir le succès sera changée de manière radicale. Les critères de beauté extérieure, de richesse matérielle, d'influence politique, de talent sportif ou de prestige mondain qui sont si importants aux yeux de tant de personnes perdront beaucoup d'éclat pour l'homme de foi. De même, les malheurs dans cette vie, la douleur, la faim, la mort et d'autres maux ne font pas si peur quand nos raisonnements sont guidés par notre foi. Ils peuvent avoir même une valeur salutaire s'ils nous rapprochent de Dieu et nous font apprécier davantage la vie éternelle qui nous est promise. Nous ne devons pas raisonner d'une manière lorsque nous sommes à l'église et revenir à la pensée du monde quand nous quittons l'assemblée de dimanche. Notre foi est rendue plus forte au fur et à mesure que nous apprenons à penser chrétiennement, quel que soit le domaine de la vie en question.
Apprends-moi, toi qui me façonne, à mieux accepter sans façon qu'à ce que j'ai, tu me le donnes, toi le seul auteur de tout don. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes, Dieu l'a promis, ne seront plus. Je veux renaître, mon vœu c'est d'être au ciel toujours avec Jésus. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. Le deuil, les larmes, l'orgueil, les âmes seront bannis à tout jamais. Ami, viens vite, Dieu qui t'invite t'offre une place en son palais. Bonheur sublime, vers cette cime je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. La paix sans ombre, bienfaits sans nombre, Dieu les promet à son enfant. Bientôt victoire, là-haut la gloire, amis, ce bonheur nous attend. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis.